Bonjour et bienvenue à cette conférence donc qui est partie prenante d'un cycle de conférences organisé par l'université qui s'appelle l'économie c'est politique et donc organisé par la faculté d'économie gestion AES de l'université de Bordeaux en partenariat avec la librairie Mola. Et aujourd'hui, nous recevons Clément Carbonnier. Donc Clément, bonjour.
Bonjour.
Donc Clément, tu es professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu es co-directeur de l'axe de recherche politique socio-fiscale donc du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, le LIEP, à Sciences Po. Et tu sors un ouvrage qui s'appelle donc « Toujours moins, l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français à la découverte ». Et c'est donc à l'occasion de cet ouvrage que l'on t'a invité. Et donc je te remercie d'avoir répondu à notre invitation. Donc dans ce livre, tu analyses une quarantaine d'années de politique économique qui cherche à inciter les employeurs à créer des emplois via l'abaissement du coût du travail, et en particulier pour les travailleurs peu qualifiés. Et donc, dans ce livre, tu brosses et tu examines les fondements de cette stratégie de baisse du coût du travail, et tu analyses les grandes étapes depuis les années 80, donc la fiscalisation progressive de la protection sociale, la limitation des prestations, la multiplication des régimes dérogatoires, l'affaiblissement des négociations collectives, etc., etc. Donc on va revenir sur ces questions-là au cours de cet entretien. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous brosser un petit peu le tableau du marché de l'emploi en France et quelles sont ses grandes caractéristiques? Est-ce qu'il y a des spécificités du marché du marché de l'emploi en France comparativement aux pays de l'Union européenne notamment? Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau en introduction sur le marché de l'emploi?
Oui, alors il y a un certain nombre de spécificités, disons, par rapport à nos voisins du marché de l'emploi en France. Souvent, on regarde juste des gros critères un peu simples, le taux de chômage. Typiquement, on a un taux de chômage qui est plutôt supérieur, notamment à nos voisins du Nord, où donc souvent on se compare à l'Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Alors le problème de cet indicateur, c'est que derrière, il dépend aussi de ce qu'on va appeler un chômeur versus un inactif. Et que là, il peut y avoir des effets de labellisation qui vont cacher en fait un certain nombre de réalités. Et puis aussi, il faut regarder les types d'emplois qu'on va avoir. Donc, si on veut faire des gros traits, si on regarde non pas le taux de chômage, mais le taux d'emploi, donc c'est la part des personnes en âge de travailler qui sont effectivement en emploi, on a des taux d'emploi qui vont être plutôt plus faibles que nos voisins en fait au début des carrières. Donc il peut y avoir un peu une difficulté pour les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Et puis en fin de carrière, et ça vient de plusieurs choses. Ça vient du fait qu'on a eu historiquement un âge de départ à la retraite un peu plus faible que nos voisins. Et puis ça vient aussi des conditions de travail. C'est-à-dire quand on regarde, on a des conditions de travail qui peuvent être plus pénibles pour un certain nombre de métiers, avec moins d'adaptation, moins de formation continue, ce qui fait qu'on va avoir dans certains métiers, notamment les moins qualifiés, des grosses difficultés pour les travailleurs à même ne serait-ce qu'aller en santé, d'une certaine manière, jusqu'à l'âge de la retraite. Donc les grosses différences, en fait, elles ne sont pas tant sur le cœur de la carrière, dans lesquelles les taux d'emploi sont élevés, même potentiellement plus élevés, parce qu'on a un taux d'emploi des femmes, par exemple, qui est relativement élevé, mis à part pour des catégories très particulières, c'est-à-dire, en fait, spécifiquement les mères de très jeunes enfants qui sont peu qualifiées. Et là, en fait, ça, c'est pas lié à notre marché de l'emploi, c'est lié à notre protection sociale et en particulier à la garde d'enfants qui est pénalisante typiquement pour ces femmes-là. Mais à part ce cas-là, il y a un taux d'emploi des femmes et un taux d'emploi même globalement pour le milieu de carrière qui est assez important et comparable aux autres pays. Et même d'une certaine manière, si on regarde un peu plus en détail, qui est plus souvent à temps plein, même si on a aussi beaucoup de temps partiel chez les femmes en particulier, on a plus de temps plein que par exemple l'Allemagne ou l'Angleterre, qui ont des taux d'emploi qui apparaissent très très élevés, mais en fait ils ont ces taux d'emploi très élevés par des temps partiels, voire des temps très partiels subis assez importants.
Très bien. Alors, dans ton livre, quand tu examines les politiques de baisse du coût du travail, tu décris trois axes qui ont été empruntés pour baisser le coût du travail, en commençant à partir des années 80 par le transfert des sources de financement de la protection sociale depuis les cotisations vers d'autres assiettes de prélèvements obligatoires, et en particulier on est passé à une fiscalisation un peu plus importante de la protection sociale. Le deuxième volet qui s'ajoute à partir des années 90, c'est la réduction du coût pour le public, le secteur public, du coup, de la protection sociale. Et le troisième qui arrive à partir des années 2000, qui est de réduire directement les salaires nets. Donc, est-ce que tu peux revenir là sur cette historique, là aussi, en mettant en évidence quelles ont été peut-être les mesures les plus emblématiques pour ces trois axes et oui, les mesures les plus emblématiques. Alors, est-ce que ce sont des choses qui s'excluent ou qui se rajoutent? J'ai plutôt l'impression que ça se rajoute, mais tu vas détailler ça. Donc voilà, quelles sont les mesures phares pour ces trois axes et la logique sous-jacente?
Oui, je pense qu'effectivement, elles s'ajoutent, voire c'est une fuite en avant, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'idée au départ, c'était d'essayer de baisser le coût du travail sans que ça ait trop de conséquences pour les ménages en général. Et puis, en fait, en allant toujours plus loin, on est allé dans des méthodes qui avaient des conséquences négatives sur les ménages. Donc, mais pour y revenir, l'idée, c'est aussi de voir ce qui se passait avant ces années 80, et en fait, notamment après-guerre, avec une reconstruction et une forte croissance économique dans un cadre où on avait, d'une certaine manière, des mécanismes à la fois de planification économique, d'une certaine manière, enfin, limitée hein, quand même, mais un petit peu, et des partages de la croissance. Et ce partage de la croissance, il se faisait en fait par deux biais. Il se faisait par le salaire net lui-même et le salaire socialisé dans la protection sociale. C'est-à-dire que on atteint aujourd'hui les 80 ans de la sécurité sociale, on fête les 80 ans de la sécurité sociale, et quand la sécurité sociale a été créée en 1945, il y avait vraiment l'idée d'une protection sociale pour les travailleurs, par les travailleurs, par le monde du travail. Et donc derrière, de ce cadre-là, on avait une gestion qui était principalement par les travailleurs eux-mêmes aussi, hein, avant qu'elle devienne plus paritaire. Les représentants syndicaux et les employeurs à partir de 1967. Mais avant, c'était principalement ça. Et donc, c'est l'idée que cette protection sociale, c'est du salaire socialisé. Et donc, dans ce cadre-là, finalement, le coût du travail pour l'employeur, c'est le salaire net et le salaire socialisé. Et donc, d'une certaine manière, dans ce cadre-là, il y a trois possibilités, d'une certaine manière, pour diminuer le coût du travail. Soit on diminue le coût pour l'employeur du salaire socialisé en finançant autrement la protection sociale. Ça a été la première étape. Soit on réduit les montants à financer de la protection sociale. Ça a été le deuxième axe. Et puis, troisième, on s'attaque directement au salaire net. Alors, au début, en fait, on a commencé par les questions de financement parce qu'il y avait l'idée aussi de ne pas rompre avec, quelque part, la stratégie de croissance un peu plus keynésienne précédente, et donc de continuer à préserver à la fois les salaires nets et à la fois la protection sociale. Mais donc, du coup, préserver les salaires nets, préserver la protection sociale, en diminuant le coût du travail, il fallait trouver un autre mode de financement que par le salaire pour financer la protection sociale. Donc ça a été la première étape, alors qui, effectivement, commence réellement dans les années 90, mais se prépare dans les années 80. Donc, dans les années 80, en fait, on change d'une certaine manière le principe de la cotisation en le transformant déjà un petit peu en prélèvement obligatoire, donc à travers les déplafonnements, hein, ce qui permet d'avoir des financements sur les plus hauts salaires, mais sans qu'il y ait de lien avec l'assurance fournie, et de préparer dans ces années 80 des modes de financement alternatifs. qui vont arriver dès le début des années 90 avec la CSG et qui va servir à financer la protection sociale à la place des cotisations sociales. Et deux années plus tard, en 93, on a les premiers exonérations de cotisations. Et ensuite, on va avoir une succession de dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Donc, on a des augmentations, notamment une première forte augmentation en 95, donc 95 sous le gouvernement Juppé. Puis ensuite, on a des exonérations supplémentaires temporaires d'incitation au passage aux 35 heures, au tournant du 21e siècle, qui vont être pérennisées par François Fillon au milieu des années 2000. Et ensuite, on va avoir le CICE en 2013, le pacte de responsabilité en 2015, et lors de donc qui là en fait essaye d'imiter à nouveau des exonérations de cotisations sociales, mais à travers une autre forme de crédit d'impôt, qui vont être basculés en 2019 effectivement en exonération de cotisations sociales avec un rajout, c'est-à-dire qu'à ce moment de la bascule, on rajoute aussi 4% supplémentaires d'exonération de cotisations sociales au niveau du SMIC. Donc le tout, en fait, on a eu une croissance assez régulière depuis 93 jusque il y a deux ans, on va dire, ou il y a un an, et ça amène à un montant d'exonération de cotisations sociales qui est très très important, puisqu'on a 40% du salaire brut au niveau du SMIC. On a quelque chose vraiment de très important, et avec une dégressivité jusqu'à 3,5 fois le SMIC, donc des niveaux de salaire importants. Alors là, normalement, le décret pris en septembre diminue un peu le point de sortie. C'est pour ça que je dis ça a augmenté jusqu'à récemment, avec un point de sortie qui serait plus qu'à 3 SMIC. Et plus 3,5, ce qui diminuerait un tout petit peu le montant total des exonérations de cotisations sociales, mais qui resterait quand même au-delà des 80 milliards par an. Hein, donc c'est pour mettre en perspective, 80 milliards, voilà, on parle de débats budgétaires très 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 compliqués pour trouver 40 milliards. Faut voir que là, on a le double rien que dans ces exonérations de cotisations sociales. Donc ça, c'est vraiment la première fois. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est alors qu'on l'a énormément gonflé, on a cherché d'autres voies. On a cherché d'autres voies, pourquoi ? Pour baisser encore plus le coût du travail, sans que ce soit l'État qui paye, d'une certaine manière. Parce que là, en l'occurrence, on baisse le coût du travail en faisant en sorte que 80 milliards de salaires soient payés par l'État à la place des employeurs privés. Donc la deuxième étape, ça a été de trouver d'autres moyens. Et l'autre moyen, ça a été de limiter la protection sociale elle-même. Alors évidemment, on peut dire, si on regarde les chiffres, la protection sociale, les dépenses de protection sociale ont plutôt augmenté. Oui, ils ont augmenté, mais en fait, moins que les besoins. C'est-à-dire que dans une économie qui s'enrichit, parce que ça a été le cas quand même, les besoins de protection sociale augmentent. Et puis dans une économie aussi qui est, d'une certaine manière, qui est capable de mieux protéger, parce que la médecine fait des progrès, etc., les dépenses sociales augmentent. Et si, si c'est la prise en charge de ces besoins n'est pas publique, elle disparaît pas, elle devient privée. D'accord ? Et donc, dans ce sens-là, on a bien un transfert, en tout cas, d'une part de la protection sociale sur le privé, à travers une réduction de la protection sociale socialisée. Et ça s'est fait, alors ça s'est fait principalement sur un peu tous les postes, mais principalement les deux principaux postes de la protection sociale, que sont les retraites et la santé. Alors, les retraites, c'est très, très visible. On a à nouveau, et on retrouve ces dates-là, la première grosse réforme des retraites en 1993, qui concerne le privé, avec des choses visibles sur le
passage aux 40 annuités.
Voilà, sur le nombre d'annuités, et des choses un peu moins visibles, mais qui ont beaucoup d'impact sur la manière de calculer la pension de retraite, en prenant comme salaire de référence les 25 meilleures années plutôt que les 10 meilleures. Et par définition, les 15 qu'on rajoute sont moins bonnes que les 10 meilleures. Sinon, les 10 meilleures ne seraient pas les 10 meilleures. Et surtout, en ayant un mécanisme un peu qui se voit pas trop, mais de désindexation des salaires passés. Parce qu'évidemment, si on va chercher le salaire d'il y a 25 ans, Il s'est passé des choses en 25 ans, hein, forcément. Enfin, si on prend les 25 meilleurs, c'est-à-dire qu'à minima, on prend des salaires 25 ans avant la retraite. Et évidemment, en 25 ans, il y a eu beaucoup de croissance. Donc finalement, le salaire d'il y a 25 ans, il ne représente pas le niveau de vie actuel de la société. Enfin, le niveau de vie au moment où la personne prend sa retraite. Et donc, c'est pour ça que dans un régime de retraite par répartition, on réindexe les salaires passés, on prend en compte... sur cette croissance-là. Mmh. L'idée, c'est que la retraite par répartition, c'est un investissement dans l'économie nationale. Et donc, cette croissance-là, on la prend en compte à travers cette réindexation. Et en fait, en 93, le principe a été de désindexer ces salaires, ce qui aussi fait baisser le salaire de référence et fait baisser les pensions, mais de manière qui ne se voit pas bien parce que c'est technique. Et puis ensuite, on a eu aussi d'autres successions de réformes des retraites, ensuite la fonction publique, puis l'âge, puis d'autres petits mécanismes, certains très forts, d'autres plus faibles. Il y a deux ans, la dernière en date, avec le passage à 64 ans comme âge minimal pour partir en retraite et aussi l'augmentation du nombre d'annuités. Donc ça, c'est la partie retraite. La partie santé, en fait, beaucoup connue, mais là, d'une certaine manière, de manière moins visible, parce qu'il y a eu beaucoup de choses techniques. Il y a eu des remboursements partiels. Il y a eu des déremboursements partiels. En fait, on passe sur le privé, sur les complémentaires. Il y a eu une manière de passer sur les complémentaires qui est moins visible aussi, qui est de dire non, mais on garde le même taux de remboursement, simplement on va pas augmenter les honoraires, ou très peu augmenter les honoraires, ou moins que ce qu'on aurait dû, mais pour pas mécontenter les professionnels de santé, on va autoriser les professionnels de santé à faire des dépassements d'honoraires. Et on a facilité les dépassements d'honoraires, qui ensuite ont été pris en charge par les complémentaires, c'est-à-dire par le privé, et donc officiellement on continue à dire, bah non, la sécurité sociale rembourse 70% de l'honoraire, mais de l'honoraire... Du contractuel, et en fait on a négocié non pas en augmentant l'honoraire mais en autorisant des dépassements, et donc en fait là aussi on a un contrôle qui transfère vers le privé un certain nombre de choses. Et puis ensuite on a d'autres manières, alors qui sont beaucoup plus confuses, qui sont, on va au niveau national fixer des seuils et ensuite imposer des contraintes au niveau inférieur, au niveau des régions, etc. Et donc là, on n'a plus forcément de plan national très clair. C'est on va bloquer les budgets et ensuite, eh ben, c'est localement où il va falloir s'adapter. Et donc en fait, finalement, les coupes sur la santé vont être décidées localement simplement parce qu'on va limiter les budgets. Et ça s'est fait à travers, notamment fortement dans les années 90. À travers le fait que ce budget-là de la santé, et globalement le budget de la sécurité sociale, au lieu d'être décidé par les gestionnaires de la sécurité sociale, qui pouvaient, du coup, s'ils avaient plus de besoins, décider d'augmenter les prestations et d'augmenter les cotisations pour les financer, hein, au moment où on avait une gestion paritaire de la sécurité sociale, l'État reprend la main sur le budget. Ce ne sont plus les gestionnaires de la sécurité sociale qui décident du budget, c'est l'État à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est discuté en ce moment au Parlement et qui justement devient discuté au Parlement, qui fixe les seuils de dépenses, et notamment pour la santé, l'ONDAM, qui est ce seuil annuel de dépenses de santé, qui ensuite va définir des budgets pour l'ensemble des agences de la santé qui doivent le faire respecter.
Et qui traduit du coup une baisse, en fait, pour une population qui vieillit, et donc il y a besoin de plus de services de santé bloqués. Enfin, en tout cas, définir un maximum de dépenses de santé équivaut en quelque sorte à une baisse de la, je sais pas, c'est de la qualité ou de la quantité de soins.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit les services du ministère de la Santé chaque année définissent quelle serait l'augmentation de cette enveloppe, l'ONDAM, qui permettrait de rester à prestation constante. D'accord. Et on voit que régulièrement, l'ONDAM est augmentée de... Alors, elle est augmentée, elle n'est pas diminuée, mais elle est augmentée de moins que ce qui serait l'augmentation qui permettrait juste de continuer à servir les mêmes soins. Et donc on a bien de ce côté-là une restriction des soins. Donc ça, c'est le deuxième plan, on est qu'au deuxième. Et donc, on voit déjà, par rapport à aussi une autre question qui était, est-ce que ça se cumule ou est-ce que ça se remplace ? Ben non, ça se cumule. On a le premier qui a commencé, qui a continué à être augmenté jusqu'au bout. Et puis pareil, le deuxième, il a commencé, on l'a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la somme des deux, d'une certaine manière. Et le troisième, ben, le troisième, d'une certaine manière, c'est de s'attaquer au salaire net directement. Alors, s'attaquer au salaire net directement, ben, y a plusieurs manières de le faire. Il y a des manières, d'une certaine manière, via, par exemple, la pression qu'on peut mettre sur les salaires à travers le salaire minimum, par exemple. Et là, on voit que depuis 2012, il n'y a eu aucune augmentation du salaire minimum. Alors, on dirait, oui, il augmente, mais avec l'inflation. Hein. Donc, 2012, alors, on a connu des crises, mais malgré tout, on a une croissance faible de la productivité, mais on a une croissance de la productivité. Hein, et donc, du coup, si on n'a pas d'augmentation du tout du SMIC en dehors de l'inflation, ça veut bien dire que par rapport à ce qu'on produit, le SMIC diminue. D'accord ? Donc là, on a une manière de forcer de moins en moins, d'une certaine manière, les hauts salaires par le bas. Et ensuite, pour les salaires plus hauts, ce qu'on a modifié, c'est les organes de la négociation collective. On les a modifiés, peut-être les deux lois les plus saillantes, les plus visibles, et d'ailleurs qui ont connu la première une forte contestation sociale, c'est en 2016 et 2018. 2016, les lois travail, dites loi El Khomri, qui modifient justement le cadre de la négociation. Et puis les ordonnances.
En privilégiant les négociations d'entreprise au détriment
alors, oui,
des négociations
ça, avec plusieurs, notamment, en fait, en privilégiant les négociations d'entreprise sur les négociations de branche. Alors pourquoi, ça c'est le point important, pourquoi ça joue sur les négociations, c'est que d'une certaine manière, quand vous êtes au niveau de la branche, vous négociez, et évidemment, au niveau de la branche, les employeurs peuvent vouloir pas trop augmenter les salaires, pas trop améliorer les conditions de travail, etc., et les salariés un peu plus, mais disons qu'on établit les règles du jeu au niveau de l'ensemble de la branche, au niveau des concurrents. Alors, il y a quand même les concurrents étrangers, mais pour un certain nombre de secteurs protégés, et même pour des secteurs non protégés, ça peut être intéressant de ne pas trop se faire la guerre en interne, d'une certaine manière, pour se concentrer sur une main-d'œuvre qui va bien, sur de la productivité, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on obtient quand on est au niveau de la branche. Si on décentralise au niveau des entreprises, on va faire entrer une nouvelle concurrence, qui est la concurrence avec le voisin. Et là, la concurrence avec le voisin, justement, ça va être de dire, moi, j'aimerais bien te payer mieux, j'aimerais bien que tu aies des meilleures conditions de travail, mais si je le fais et que notre voisin ne le fait pas, il va nous prendre le marché. Et en fait, ce type de chantage-là est beaucoup plus faible, forcément, quand il est au niveau de la branche, parce qu'il décide les règles du jeu aussi du voisin. Et donc, effectivement, décentraliser le lieu des négociations a un impact d'affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs. Donc ça, c'est un des points. Et avec, en plus, les ordonnances travail, donc ensuite, qui viennent en 2018, qui ont aussi des formes de décentralisation, mais qui, en plus, ont un certain nombre de lois aussi, qui, notamment sur le licenciement, qui font que si le licenciement est moins coûteux pour le... Et notamment le licenciement sans cause réelle et sérieuse, hein, puisque c'est les pénalités quand on a fait des licenciements hors la loi, d'une certaine manière, qui sont diminués, ça permet plus facilement à la fois de licencier et de menacer de licenciement pour obtenir un certain nombre de choses. Et donc, ça renforce le pouvoir de négociation côté employeur. À nous. Donc ça, c'est deux choses. Et puis, ce qui est venu après aussi, et qui va un peu dans le même sens, c'est les réformes du chômage. Alors, beaucoup de travailleurs les défendent moins que d'autres choses parce que on a l'impression que ça concerne les chômeurs. C'est vrai que ça concerne les chômeurs. C'est-à-dire, quand on a baissé ces prestations-là, les gens qui passent par un épisode de chômage, cet épisode est plus douloureux pour eux. Donc ça, c'est un point direct, mais ça a aussi de l'influence sur l'ensemble du marché de l'emploi. Parce que, d'une certaine manière, un des points, et d'ailleurs on le voit bien dans beaucoup de discours sur ce qui justifie ces réformes, une manière de justifier les réformes, c'était de dire « Ah oui, mais regardez, il y a des secteurs où on a des pénuries d'emplois, et donc il faut inciter les gens à accepter, etc. » Et donc c'est bien pousser les gens à accepter les secteurs où on a des pénuries d'emplois, et en fait les secteurs où on a des pénuries d'emplois, quand on regarde, soit c'est les secteurs très particuliers qui demandent une compétence qu'on n'a pas assez formée, bon, mais dans ce cas-là... ça va pas marcher. Soit c'est des secteurs dans lesquels on a des conditions de travail qui sont particulièrement pénibles et mal rémunérées. Et donc on a bien l'idée derrière ça d'essayer de forcer la main d'œuvre vers ces emplois aux très mauvaises conditions de travail et mal rémunérées pour permettre aux employeurs de continuer à offrir ces mauvaises conditions-là et ces faibles rémunérations. Et donc finalement, ça rentre aussi dans cette stratégie-là. Voilà, on a fait le tour. Non, un des points, parce que finalement, là, on pourrait avoir l'impression que le dernier pan, il commence que dans les années 2010, donc avec ces lois travail et ces lois sur l'assurance chômage. En fait, il commence un peu avant, et notamment sous Nicolas Sarkozy, avec la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, hein, qui est pas un statut d'indépendant, justement, parce qu'un vrai indépendant, il est indépendant. Et justement, tout le point, c'est que l'auto-entrepreneur n'est pas un vrai indépendant. D'ailleurs, dans les discussions à la Commission européenne, c'est un statut où c'est appelé le travailleur indépendant, économiquement dépendant. C'est une des manières de le présenter. Et en fait, subtil. En grande partie, c'est des formes de salariat, dans le sens où c'est où en fait on n'a pas l'indépendance, on a un donneur d'ordre qui demande du travail et qui le rémunère, mais qui le rémunère pas sous la forme du salariat protégé tel que le droit du travail l'avait fait. On revient un peu à l'époque du salariat aux pièces, et avec moins de protection du travail et potentiellement des salaires qui sont aussi inférieurs au SMIC.
Mais il y avait, alors juste avant Sarkozy, il y avait Chirac et je crois que c'était de Villepin, Premier ministre, le contrat première embauche, qui finalement n'a pas été mis en place, mais avait emprunté aussi cette logique-là.
C'est ça, c'était de dire, mais alors ça c'est quelque chose aussi qui est revenu à plusieurs périodes, c'est de dire pour des segments particuliers de la population, on va autoriser finalement des SMIC plus faibles ou moins de protection du travail. Donc c'est typiquement ce genre de contrat-là qui vise effectivement. Alors d'une certaine manière, pour pas se mettre à dos tout le monde, on diminue pas les conditions de travail de tout le monde et on va chercher un segment qu'on va baisser. Donc le premier embauche, c'était plutôt les jeunes. On retrouve un peu la même logique d'ailleurs dans par exemple en Allemagne avec les mini-jobs. Alors qui cible pas en particulier, mais qui en fait sont beaucoup pris par les femmes et les immigrés, et qui sont des emplois de moins bonne qualité avec des très faibles rémunérations, pas de protection sociale, etc., etc. Donc ce côté de cibler, on l'a aussi, et on a régulièrement, ça n'a pas été fait, mais on revoit sur la table mis des questions d'avoir des SMIC différents. Des SMIC différents, alors pour les jeunes, pour les vieux, pour telle et telle catégorie de population, voire des SMIC régionaux. Et donc ça, c'est des choses qui sont mises sur la table aussi de ce côté-là, en disant on va baisser sur des segments particuliers pour avoir moins d'opposition générale. Pour l'instant, c'est pas passé.
Alors c'est bien, bon, on a vu, hein, on a bien brossé l'ensemble des axes et des voies qui ont été empruntées, des mesures qui ont été mises en place pour baisser le coût du travail. Et dans le livre aussi, bien il y a une étude très fouillée de toute la littérature académique et des études empiriques qui ont été menées pour voir bien si ces mesures-là avaient eu une efficacité. Et en fait, ce que tu montres dans le livre, c'est que assez généralement, enfin, il y a quand même la grande majorité de la littérature montre que ces politiques n'ont pas eu d'effet positif sur l'emploi ou très faiblement, et que à l'inverse, des politiques visant à augmenter le salaire minimum, par exemple, n'ont pas eu d'impact négatif sur l'emploi ou sur la compétitivité. Donc, bon, résultats qui peuvent apparaître contre-intuitifs au regard du discours que l'on entend très souvent, que le coût du travail est l'ennemi de l'emploi. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ces études-là et ce qu'elles montrent précisément, si tu as en tête quelques études particulièrement marquantes ou importantes qui ont alimenté le débat sur cette question-là?
Oui, et alors ça, c'est un des points intéressants, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que c'est une évidence, ce serait une évidence que le coût du travail nuit à l'emploi, et d'un autre côté, on a des études empiriques Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, l'économie est une science qui a toujours essayé d'être un peu empirique, mais pour différentes raisons, notamment techniques, elle l'était beaucoup moins par le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, les études empiriques sont de plus en plus nombreuses. Et en fait, quand on regarde ces études-là, ce qu'on constate, c'est que ce caractère qui est censé être prépondérant du coût du travail sur l'emploi n'existe pas. En fait, il n'apparaît pas simplement. Donc, on a vraiment le cas. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de recenser le plus possible, effectivement, de ces types d'évaluations. Alors, pour pouvoir faire des évaluations, il faut, en général, il faut une réforme. Parce que justement, l'idée, c'est on va regarder à un moment donné, on a un changement de politique et on va repérer dans les comptabilités des entreprises celles qui en bénéficient, celles qui n'en bénéficient pas, et on va voir si effectivement ça change la donne, ça change la donne pour celles qui en bénéficient. Hein, c'est typiquement ce genre de méthodologie-là, et donc il nécessite des réformes. Donc en France, typiquement, on va avoir toutes ces réformes dont j'ai parlé d'augmentation des exonérations de cotisations sociales. Donc en 95, en 2005, donc en 95, il y a grosse hausse Juppé. En 2005, les allègements Fillon, et puis 2013-2015, le CICE. C'est vraiment les trois grosses étapes. Et puis 2015, le pacte de responsabilité. Bon, ce qu'on observe, alors il y a une exception, c'est-à-dire qu'il y a un papier qui effectivement avait trouvé pour 95 un effet. Je vais y revenir après. Mais ensuite, les autres papiers, les autres études ne trouvent pas d'effet ni pour le CICE, ni pour les allègements Fillon, ni pour le pacte de responsabilité. Donc ça, c'est un des points. Un deuxième point derrière, pour essayer de confronter ça, c'est de dire, mais est-ce que c'est que le cas de la France ou est-ce que, finalement, c'est quelque chose qui est plus général? Donc pour ça, j'ai essayé de regarder les autres pays qui pouvaient avoir des réformes du même type, ou en fait des réformes qui permettaient d'évaluer ce lien entre le coût du travail et l'emploi. Et donc, effectivement, on a, pour les cotisations sociales, pour avoir quelque chose de très proche, en fait, il faut des pays où il y a d'importantes cotisations sociales. Donc, typiquement, en Scandinavie, en Suède ou en Finlande, où on a aussi une protection sociale qui est financée par les cotisations sociales. Et il y a eu des dispositifs, soit spécifiques régionaux, d'exonération de cotisations sociales dans des régions, soit spécifiques sur des tranches d'âge, les plus âgés, les plus jeunes, soit sur des, comme en France, sur les bas salaires, par exemple, soit des choses un peu croisées. Et donc, il y a aussi un grand nombre d'évaluations de ces réformes-là en Scandinavie. Il n'y a pas d'effet non plus en Scandinavie. Et puis le troisième point, c'est y a d'autres pays qui n'ont pas de cotisation sociale, donc on ne peut pas regarder là-dessus, mais par exemple, qui vont soit mettre en place des salaires minimums, soit augmenter. Donc là, on a un effet dans le sens inverse, hein, une augmentation du coût du travail très fort, augmenter le coût du travail à travers des augmentations salaire minimum. Là, à nouveau, donc il y a eu une augmentation en Grande-Bretagne très récemment, en Allemagne, en Espagne. Moi, j'avais regardé un peu au Canada, en Ontario. Pour revenir, pourquoi c'est intéressant là-bas, parce que souvent, ce qui était présenté, les premières études de ce type-là, ça a été aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que les États-Unis, en fait, c'est très propice à ce genre d'évaluation, parce que les politiques de salaire minimum, en fait, sont au niveau des États. Au niveau fédéral, en fait, il y en a un, mais il est tellement bas que ça compte pas. Et donc, en fait, les salaires minimums sont au niveau des États. Or, on a beaucoup de zones d'emploi, de marchés du travail qui sont à cheval sur des États. Et donc, quand on a un État qui augmente son salaire minimum, on a un protocole expérimental vraiment très, très beau, puisqu'on va avoir un marché de l'emploi où il y a la moitié du territoire qui voit son salaire minimum augmenter et pas l'autre moitié. Donc il y a eu pas mal d'études de ce point-là. La première, la plus emblématique, c'est à la frontière entre le New Jersey et la Pennsylvanie, par deux économistes, donc Card et Kruger, et qui leur a valu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Albert Nobel. Donc ça a été très, très connu, d'une certaine manière. Et leur résultat, même, il était contre-intuitif. C'est-à-dire qu'ils ont montré que quand le New Jersey a augmenté fortement son salaire minimum, L'impact a été que l'emploi, et notamment ils regardaient l'emploi dans les fast-food, parce qu'en plus, là, du coup, il y avait à la fois une forte concurrence entre les fast-food à la frontière de la Pennsylvanie et du New Jersey, puis c'était typiquement un type de secteur où on avait des bas salaires, et donc ça pouvait être impacté. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est l'inverse. C'est-à-dire que au moment de l'augmentation de ce salaire minimum, l'emploi a augmenté au New Jersey. Ensuite, alors en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Notamment, aujourd'hui, il y a des méta-analyses qui regardent l'ensemble depuis très longtemps de toutes les augmentations de salaire minimum entre les États et leurs évaluations. Et en gros, pour résumer les résultats, principalement, il n'y a pas d'effet. Il y a quelques rares cas où il y a des effets sur quelques tranche très spécifique de la population, donc en gros uniquement dans les entreprises les plus en difficulté financière et sur des types de salariés particuliers, typiquement les plus jeunes ou les plus vieux. Mais sinon, la plupart du temps, il n'y a pas d'effet. Et encore, les rares fois où il y a un effet, l'effet tel qu'attendu, il y a longtemps, en fait. Et c'est-à-dire que depuis... en gros, les auteurs séparent les 20 dernières années du 20e siècle et les 20 premières du 21e. Et les rares cas où on trouve un effet, c'est au 20e siècle. Au 21e, il n'y en a plus aucune. D'accord. Donc voilà, donc l'ensemble de ces choses-là semble plaider plutôt pour cet effet-là. Alors, je reviens peut-être sur la France. Le seul cas qui a été trouvé, c'est sur ces allègements Juppé. Et donc, c'est souvent la seule étude qui est remise sur le devant de la scène.
Celle sur l'Alsace, c'est ça, non ?
Non, pas l'Alsace, c'était sur les 35 heures.
Ah, pardon.
Non. Donc, c'est une sur les exonérations de cotisations en 95. Mais qui était... donc, c'est une étude de Bruno Crépon et Rosane Deplat, qui a été publiée dans Économie et Statistiques. Et alors, en fait, c'est une étude qui, forcément, a été publiée en 2001. Il n'y avait pas les mêmes moyens au sens informatique. Et donc, qui regarde un échantillon assez restreint d'entreprises et qui, par rapport à la question de recul aussi, les regarde pas longtemps par rapport et qui trouve un effet emploi. Alors, depuis, un effet emploi qui, quand on part de l'échantillon et puis on l'extrapole à l'ensemble de l'économie, ça fait beaucoup, potentiellement, enfin, relativement beaucoup. Cette étude a été refaite dans les années 2020, donc là, tout récemment. Sauf que, du coup, avec des moyens informatiques meilleurs, au lieu de se contenter d'un échantillon des entreprises, ça a pu être fait sur toutes les entreprises. Et ça a pu être fait avec plus de recul temporel aussi. Ces deux choses-là permettent plusieurs choses, permettent de voir l'effet à court terme et l'effet un peu plus long terme, et permettent aussi de regarder des effets d'hétérogénéité. Et notamment, ce que ça a montré, c'est que, en fait, ça n'avait pas créé d'emploi, ça avait un peu sauvegardé dans les entreprises en plus grande difficulté financière. Donc, ce qui apparaît de ça, c'est pas un mécanisme, le coût du travail est moins cher, les entreprises vont en consommer plus, d'une certaine manière. Le mécanisme qu'on a, c'est qu'il y a des entreprises qui étaient en train de mourir, et on a trouvé un moyen, via les cotisations sociales, de leur injecter un peu de fonds, et ça les a fait survivre. Mais le point important, c'est que quand on regarde l'effet à long terme, il s'estompe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les a pas fait survivre. On ne leur a pas permis de passer le cap. On les a mis sous respirateur artificiel pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, en fait, il y avait une bonne raison pour laquelle elles étaient en difficulté financière, et donc finalement, ça a disparu, et l'effet a disparu. Donc en fait, on a un effet qui est que temporaire, mais sinon, sur les autres mesures, et notamment les importantes mesures d'augmentation très très forte de ces cotisations, que ce soit Fillon en 2005, le CICE ou le pacte de responsabilité, là on n'a pas eu de création d'emplois.
Ok. Alors l'idée aussi que la baisse du coût du travail est bénéfique à l'emploi, bon, on le sait en tant qu'universitaire, elle est aussi largement véhiculée par la théorie dominante qu'on appelle néoclassique en économie, et qui a une vision particulière, on pourrait même dire un peu simpliste du marché du travail. Donc est-ce que tu peux très vite rappeler la logique théorique sous-jacente à tout ce que tu viens de raconter, en fait, sur les mesures, parce que toutes les mesures que tu présentes dans le livre et que tu viens de rappeler là, elles sont aussi inspirées par cette vision de, du fonctionnement d'un marché du travail particulier.
Oui, oui, l'idée, en fait, l'idée, elle est simple, elle est intuitive. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle marche bien. Hein. C'est dire, bah, en fait, le marché du travail, alors on l'appelle marché, alors qui en fait pas un marché du travail, un marché de l'emploi, mais bon, ce marché-là fonctionne comme un marché dans lequel la marchandise, c'est la force de travail, dans lequel le vendeur, c'est le travailleur qui vend sa force de travail, et l'acheteur, c'est l'entreprise. Et donc, si on plaque un modèle simple de marché, bah on dit, bah en fait, sur un marché, quand la marchandise est moins chère, les acheteurs en achètent plus. Bon, voilà, c'est juste ça. Et donc, la marchandise, c'est la force de travail. Le prix de la marchandise, bah, c'est son coût pour l'acheteur qui est l'employeur. Et donc, si on baisse le coût, eh bah, l'acheteur va en acheter plus. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce que finalement, la question n'est pas de savoir si ça marche ou pas. Enfin, là, on vient de passer quand même pas mal de temps à présenter l'ensemble des mesures qui sont quand même très convergentes, à la fois en France et ailleurs. Donc, ça ne marche pas comme ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il y a eu plusieurs tentatives d'explication. Notamment, les premières, ça a été justement par rapport à cette question dont j'ai parlé, parce que les premières grosses études qui sont venues, finalement, les premières études empiriques qui sont venues montrer que ça ne marchait pas, ça a été typiquement ces questions sur les salaires minimums à la frontière des États-Unis. Et là, la réponse, et notamment par rapport dans le débat français, mais aussi plus international, ça a été de dire, ah oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on part de très, très bas dans le cas des États-Unis. Et on part de très, très bas, et on part même de trop bas. C'est l'idée du monopsone. Donc, c'est l'idée que l'employeur et un très très fort pouvoir de marché sur ce marché du travail, ce qui est probablement exact, et que donc il peut choisir volontairement de payer moins que ce qui serait le salaire d'équilibre, puisqu'il y a cette idée, à partir du moment où on a une vision du marché du travail comme un marché normal, il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, l'employeur, il peut faire en sorte de garder un salaire en dessous du salaire d'équilibre. Alors évidemment, s'il est en dessous du salaire d'équilibre, il n'arrivera pas à recruter totalement. D'accord, c'est ça l'idée. Mais en fait, pour lui, il fait tellement de marge supplémentaire en payant moins que même s'il n'arrive pas à remplir ses postes parce qu'il paye trop mal, finalement, sur son profit, il s'y retrouve. D'accord. Et donc ça a été l'explication qui a été faite justement sur ce cadre à la frontière Pennsylvanie-New Jersey. C'était l'idée de dire, bah, en fait, dans les fast-food, ils payent tellement mal qu'ils n'arrivent pas à trouver de salariés. Et donc le service est mauvais. Ils perdent un peu d'argent par un service mauvais, parce que forcément, on n'arrive pas à servir tous les clients. Mais ils y gagnent tellement en marge en payant mal leurs salariés qu'ils s'y retrouvent. Et puis, à partir du moment où au New Jersey, on augmente le salaire minimum, bah, de toute façon, ils ne peuvent pas payer moins. Et là, d'un coup, bah, ils arrivent à recruter le nombre de salariés dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que ça augmente l'emploi. C'est pour ça que cet effet contre-intuitif, c'était l'explication du monopsone. Alors, est-ce que cette explication, elle s'applique pour le cas de la France? Je ne crois pas, parce qu'on a quand même un salaire minimum qui est plus élevé. On a des formes de protection du travail qui font qu'on n'a pas ou en tout cas jusqu'à maintenant. Mais en fait, beaucoup de gens, là, justement, aimaient bien cette explication pour pouvoir dire « Ah oui, non, mais effectivement, aux États-Unis, ça n'a pas d'impact, mais c'est parce que le salaire minimum est trop bas. Nous, en France, ça aurait de l'impact. Et donc, il ne faut pas augmenter le salaire minimum, voire le baisser, et il faut faire ces exonérations de cotisations. » Sauf que en France, bah, y a pas d'effet non plus. Donc finalement, c'est pas juste un effet bas salaire, c'est un effet, ou en tout cas, ou alors en France, on est aussi à des salaires bien trop bas pour que ça ait un effet. Et pareil pour la Scandinavie, qui a aussi des salaires un peu. Donc une autre explication qui, à mon sens, est plus confortée par les faits, c'est l'idée de dire que, bah, en fait, pour produire, on a un certain besoin de beaucoup de choses différentes. On a besoin de travailleurs qui ont des compétences différentes. On a besoin de matières premières. On a besoin d'infrastructures. On a besoin d'immeubles. On a besoin de technologies. Enfin, on a besoin de plein de choses. Et ces choses-là, elles sont complémentaires les unes aux autres. Elles sont complémentaires. Et donc, derrière, ce qui se passe, c'est que si le prix d'un de ces éléments varie, en fait, ben, on va pas le remplacer par un autre. Parce qu'en fait, la théorie, justement, cette théorie néoclassique, de quelle manière elle joue sur, parce que cet argument de dire bah non, mais on produit pas avec un seul facteur, on produit avec plein, et donc finalement le marché du travail il dépend pas juste du prix de ce facteur là. L'idée c'est de dire oui, mais on a des fonctions de production où on peut substituer les facteurs. Donc si et l'exemple qui est donné souvent, c'est de dire bah voilà, typiquement, si le travail est trop cher, on va remplacer les caissières par des caisses automatiques. Alors c'est cette idée-là, il y a une substitution entre la main-d'œuvre et par exemple la machine ou d'autres types de main-d'œuvre. La réalité, c'est que en fait, on a énormément de complémentarité dans les productions, ce qui fait qu'on n'a pas ça. Et donc une des manières de comprendre la complémentarité, peut-être l'exemple le plus simple, c'est vous êtes boulanger et puis demain la farine, le prix de la farine baisse ou augmente, enfin le prix de la farine varie. Bah, vous n'allez pas mettre plus de farine dans votre pain ou moins de farine dans votre pain. En fait, là, il y a besoin pour que le pain soit bon d'une farine, d'une quantité de farine. Vous n'allez pas, si l'électricité augmente, le prix de l'électricité augmente, moins cuire votre pain, etc. Ça paraît... voilà, tu rigoles, mais c'est ça, la complémentarité. Ah. Et donc, quand, bah, par exemple, avec la crise énergétique qu'on a connue, le prix de l'électricité a augmenté, les boulangers n'ont pas moins cuit leur pain. Ils ont trouvé d'autres moyens, ils ont pu le passer un peu en augmentant le prix du pain, en diminuant d'autres types de dépenses, etc. etc. Mais ça passe pas sur le... Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. Et même si on revient sur l'exemple des caissières, en fait, derrière, ce qui se passe, c'est... on a envie de dire, ben non, en fait, on est passé aux caisses automatiques parce que cette technologie existait, et derrière, en fait... Cette technologie existante, elle permettait d'économiser effectivement sur les coûts de production des supermarchés, donc ils l'ont pris. Et si on voulait vraiment avoir du travail moins cher que la caisse, il faudrait descendre tellement bas que ce serait plus raisonnable. Alors là, il y a d'autres arguments qui peuvent rentrer en compte, qui disent oui, mais l'invention même est tirée par le fait que le travail était trop cher. Mais là, on voit bien que ça marche pas. C'est-à-dire que c'est pas une invention franco-française. C'est comme, on va pas dire que l'IA et les progrès de l'intelligence artificielle sont liés au fait que les cotisations sont trop élevées en France. En fait, c'est pas vrai. On a un certain nombre de progrès de progrès techniques, enfin, d'amélioration, de nouvelles technologies qui se développent pour différentes raisons. Et ensuite, on les applique pour différentes raisons aussi, mais pas directement par rapport au coût du travail. Et donc, en fait, ce lien direct entre le coût du travail et l'emploi, il marche pas. Alors, évidemment, on pourrait pousser le raisonnement jusqu'au bout. On dit, bah oui, mais si on passait le SMIC à 100 €, bah oui, si on passait le SMIC à 100 €, il y aura un effet. Mais c'est pas de ça dont on parle. Hein. Et même, juste pour aussi donner cette question sur la chaîne et cette complémentarité, j'avais fait le calcul quand il y avait eu le débat pendant les dernières législatives sur le SMIC à 1 600 €. Il disait 1 600 €, vous vous rendez compte, on passe de 1 400 à 1 600, c'est 14% d'augmentation, c'est énorme, etc. Non, en fait, 14%, c'est pas énorme. Juste pour avoir une idée, l'Espagne, ils ont augmenté de 22% d'un coup. L'Ontario, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était 21% d'un coup. Et 21%, pour revenir sur la question haut ou bas salaire, quand ils ont, en 2018, ils ont passé le salaire minimum en Ontario à $15 de l'heure. Le $15 canadien de l'heure en 2018 était supérieur au SMIC français. Donc non seulement c'était 22%, 21% d'augmentation d'un coup, mais c'était jusqu'à un niveau supérieur à ce qu'il était en France. D'accord ? Et il y a eu des études, ça n'a pas eu d'impact négatif. Donc en fait, non, 14%, c'est pas beaucoup. Potentiellement, ça pourrait même être plus d'un coup. Et une des manières de le voir, c'est de prendre les comptabilités d'entreprise et de regarder... 14% sur le SMIC, combien ça fait en d'augmentation globale du coût de production? Parce que c'est ça qui compte finalement. Si on a quelque chose de complémentaire, la seule manière sur laquelle ça peut jouer, c'est sur les coûts de production globaux. D'accord? Et donc j'avais fait le calcul, notamment en reprenant un certain nombre de données, et évidemment, j'avais cherché sur les secteurs les plus intensifs en bas salaire, parce que c'est eux qui potentiellement sont les plus touchés. Donc y a l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail, les services aux personnes, etc. Ces secteurs-là. Et j'avais montré que dans les secteurs, j'avais calculé que dans les secteurs les plus exposés, c'est 14% d'un coup d'augmentation du SMIC représentait 0,6% d'augmentation du coût de production. D'accord ? Alors c'est pas rien, 0,6. Si on est une entreprise qui a la limite de la rentabilité, 0,6 c'est pas rien. Mais
c'est pas 14.
On voit bien que c'est pas 14. Et derrière. On peut voir aussi que si, même si l'intégralité passait dans les prix, parce que potentiellement, on se dit, ça peut passer dans les marges des employeurs, ça peut passer, comme on a dans ces secteurs-là aussi beaucoup de sous-traitants, En fait, ça peut passer dans le prix de l'entreprise donneur d'ordre, qui, elle, a... Ça, du coup, ça fait encore moins d'effet sur ses prix. Mais même si on pensait, par exemple, je reprends l'exemple de ma boulangerie, derrière, si les gens, les gens qui ont les plus bas salaires ont leur salaire qui augmente de 14% et que leur baguette augmente de 0,6%, je pense qu'ils sont gagnants, globalement. Donc même si ça passait dans les prix, 0,6, c'est pas non plus un effet d'inflation énorme et potentiellement, il y a à y gagner pour les travailleurs de ce côté-là.
Alors, je voulais revenir sur une des mesures qui a été d'ailleurs la mesure, une des mesures phares du quinquennat de François Hollande, ce qui est le CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, mis en place en 2013, c'est ça, et sur lequel tu as travaillé à l'évaluation, donc au sein du LIEP et pour France Stratégie aussi, si je t'ai bien lu. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'était le CICE, son impact sur l'emploi, qui, sans trop déflorer, a été assez réduit, et puisqu'il existe encore aujourd'hui, mais sous une autre forme, il a été transformé en 2019, c'est ça, en réduction de cotisations sociales pérennes. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide sur cette question-là?
Oui, effectivement, quand j'ai présenté l'ensemble des évaluations empiriques de ce type de mesures, en fait, effectivement, moi, le départ, ça a été mon évaluation d'une réforme en particulier. Et puis ensuite, justement, j'ai cherché à voir si c'était le cas unique. Et puis j'ai regardé les autres aussi pour voir si c'était spécifique ou si c'était le cas général. Donc j'ai vu que c'était le cas général. Donc cette réforme-là, elle a eu lieu en 2013 et elle a consisté... Donc, à une extension des exonérations de cotisations sociales pour différentes raisons, en fait, c'était un peu compliqué à la fois budgétairement. Il y avait l'idée d'essayer d'avoir un petit jeu malin à dire, ben, si on le passe en crédit d'impôt plutôt qu'en allègement de cotisations sociales, on gagne un an de trésorerie pour l'État. D'accord, parce que l'allègement de cotisation sociale, on le paye au fur et à mesure, et donc si on fait l'allègement, en fait, c'est d'un coup, c'est pas payé, et donc voilà, on a la dépense publique tout de suite. Avec le crédit d'impôt, il y a l'idée que l'entreprise, en fait, quelque part, elle anticipe qu'elle va le gagner dès aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sur son emploi d'aujourd'hui. Donc, s'il doit y avoir une incitation, il doit avoir lieu tout de suite, mais finalement, c'est payé plus tard parce que c'est payé un an plus tard quand l'entreprise fait son bilan et paye ses impôts. D'accord, donc il y avait un petit jeu de timing, et puis il y avait un autre enjeu aussi qui était de dire, en fait, on est déjà à un niveau où il n'y a plus de cotisations sociales, en tout cas, cotisations sociales prélevées par l'URSSAF au niveau du SMIC. Et donc, si on veut en rajouter, on peut plus d'une certaine manière, puisqu'il n'y en a plus. Juste parce que ça peut ne pas paraître. C'est une incise, mais ça peut ne pas paraître cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait eu un rajout de 4% en 2019. Alors, si on peut pas, en fait, justement, le principe du rajout, c'était d'aller chercher des cotisations sociales qui n'étaient pas prélevées par l'URSSAF, qui étaient les cotisations Agirc-Arrco, donc de la retraite complémentaire, et donc d'aller ouvrir un autre biais, mais par quelque chose qui était quand même encore qui était hors sécurité sociale, puisque l'Agirc-Arrco, c'est de la retraite complémentaire, c'est pas dans la sécurité sociale. C'est juste une incise, mais et donc il y avait ça, et donc l'idée, c'était de dire. On va rajouter un bout de cette manière-là. Et donc, c'était un crédit d'impôt. Et c'était un crédit d'impôt qui, à la fois, rajoutait... Alors, il y avait eu un débat après l'élection. Est-ce qu'il vaut mieux rajouter sur les bas salaires ou étendre aux salaires? D'accord. Et en gros, les secteurs qui avaient plutôt des bas salaires disaient non, il faut rajouter sur les bas salaires. Et puis, notamment l'industrie exportatrice, qui en fait a très peu de bas salaires. C'est pour ça que l'idée de compétitivité, quand on nous parle de ça, ça joue beaucoup, disait mais nous, on n'a que des gens bien payés. Donc, il faut mettre des allègements de cotisations sur les gens bien payés aussi. Donc, il y avait cette idée d'extension sur les plus hauts salaires. Et donc, l'idée, ça a été de dire, OK, on va contenter tout le monde. Et donc, on va rajouter 4% la première année, puis 6% sur tous les salaires pas dégressif, cette fois, du niveau du SMIC jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et puis ensuite, au-delà de 2,5 fois, on arrête. Donc, c'était ça, le point. Et ça, c'était du coup... très mauvaise idée économique, mais ça permettait bien d'évaluer, parce que du coup, on était capable de regarder les entreprises et de voir, en fonction de la structure salariale des entreprises, de, à la fois de regarder des entreprises très très similaires avant la mise en place de cette réforme, donc des entreprises qui étaient dans le même secteur, qui avaient à peu près la même taille, la même intensité capitalistique, mais qui avaient aussi la même répartition de la main-d'œuvre entre des bas salaires, des moyens salaires et des salaires élevés, mais avec le fait que certaines avaient leurs salariés proches de 2,5 qui étaient juste en dessous, et certaines qui étaient juste au-dessus. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi les comptabilités de ces entreprises depuis avant la réforme, la mise en place du CICE, et on a regardé ce qui se passait après le CICE, d'accord, en comparant des entreprises similaires en tout point, en tout point, pas tous, mais en beaucoup de points, mais qui, certaines bénéficiaient du CICE et pas d'autres. Et ce qu'on a observé, c'est que elles se comportaient exactement de la même manière avant, ce qui était un peu logique, si elles étaient similaires, et elles ne divergeaient pas du tout en termes d'emploi, après coup. Donc, il y avait vraiment aucune différence en termes d'emploi, aucune différence en termes d'investissement, parce qu'il y avait aussi l'idée de dire, potentiellement, le CICE, en fait, on va donner un peu, on va augmenter les marges des entreprises, ça va leur permettre de plus investir, pas trouver des choses en termes d'investissement. En termes, il y avait cette idée aussi, on va le faire sur des salaires plus hauts, donc ça va leur permettre d'exporter, pas de différence sur les exportations. Alors, est-ce que c'est juste qu'on a raté les choses? Non, on n'a pas raté parce qu'on a vu là où il y avait la différence. Parce qu'il y avait une différence in fine. Et cette différence, elle a été sur les salaires, mais pas sur tous les salaires. Sur les salaires uniquement des plus qualifiés, qui étaient, pour le coup, ceux qui n'ouvraient pas droit au CICE. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a eu effectivement un gain financier, d'une certaine manière, pour les entreprises qui pouvaient payer moins cher... Implicitement, c'est comme s'ils pouvaient payer moins cher la grande partie de leurs salariés, d'accord, les bas et les moyens salaires, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient à récupérer un crédit d'impôt en fonction de leur salaire bas et moyen. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé une part en hausse de marge et ils ont partagé en partie cette hausse de marge avec leurs salariés les plus qualifiés, les mieux payés. Donc c'est ça qu'on a pu effectivement mettre en évidence dans ce cadre-là.
Parce qu'en plus, tu le mentionnes hein, dans le livre, je regardais là, un emploi créé avec le CICE représente à peu près, le coût c'est 160 000 euros, c'est 8 fois le coût d'un emploi au SMIC, donc il y a...
Alors non.
Non.
Pas exactement ce que
c'est pas exactement. Bon.
Non,
alors rectifie-moi.
Non, moi ce qu'on a trouvé nous, c'est que un emploi créé au niveau par le CICE, c'est l'infini, puisque ça n'a pas créé d'emploi.
Oui.
Ce qui s'est passé, c'est que il y avait dans l'appel à évaluation de France Stratégie, il y a eu plusieurs équipes qui devaient évaluer des choses différentes, certaines, mais qui pouvaient se croiser. Et notamment, on était deux équipes à avoir à évaluer l'emploi, l'effet sur l'emploi. Donc, avec l'idée, le but, c'est pas juste d'avoir deux équipes, c'est d'essayer de prendre des méthodes un peu différentes. Donc, nous, notre méthode, c'était effectivement de regarder des entreprises très très similaires, mais qui étaient touchées différemment par le CICE et de voir comment ça évolue après. L'autre équipe, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était prenez les entreprises les plus différentes en CICE, quitte à ce qu'elles soient très 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 différentes, et ensuite par des modèles statistiques, essayer de corriger ces différences. D'accord ? Donc vous avez des voilà, donc c'est une méthodologie qui était différente. Et donc effectivement, nous on trouvait zéro emploi créé et eux ils en trouvaient un tout petit peu, ce qui effectivement Quand on faisait le calcul, le peu d'emplois créés qu'ils trouvaient correspondait à 160 000 euros. Alors non, même pas, parce qu'en fait, pour l'ensemble du CICE, c'était moins. Mais si on considérait que toute la partie du CICE sur les hauts salaires ne créait aucun emploi et qu'on prenait pas l'ensemble des dépenses de CICE, mais juste la partie du CICE sur les bas salaires, on arrivait au fait que avec cette partie-là, ça coûtait 160 000 euros par emploi créé pour créer des emplois par le CICE sur ces bas salaires-là. Donc effectivement, ça c'est une borne maximum. Moi, j'ai pas été très très convaincu par En gros, parce que comme on prend des entreprises très très différentes et qu'ensuite statistiquement on essaye de les corriger, il peut y avoir des problèmes sur ces corrections. Et notamment, une des manières de faire le test, c'est de regarder, mais est-ce que en fait, du coup, est-ce qu'on a bien corrigé ? C'est-à-dire, si on applique la même méthode 2 ans auparavant, est-ce qu'on trouve zéro ? Parce que, ou est-ce qu'on trouve la même chose ? Et en fait, quand on applique la même méthode 2 ans auparavant, on trouve la même chose. Or, 2 ans avant, il n'y avait pas le CICE. Donc, en fait, c'est l'idée que, en fait, même ces très peu d'emplois, en fait, ils étaient pas créés par le CICE. C'est un biais statistique du fait d'avoir du mal à corriger la différence entre ces entreprises. Donc, c'est pour ça. Oui, au maximum, si on veut être gentil, on peut dire que ça a créé quelques emplois pour 160 000 euros par an et par emploi créé. Mais en fait, probablement...
Ce qui est déjà pas très gentil.
Ce qui est déjà pas très gentil. Mais en fait, non. Ça a créé moins d'emplois que ça et donc pour beaucoup plus cher.
Okay. Alors justement, on va terminer par ça. Dernière question. Parce que tu termines le livre, évidemment, en faisant état d'alternatives pour traiter la question de l'emploi. Et donc, puisque les politiques de baisse du coût du travail, contrairement à ce qui est répété, ne sont pas efficaces, quelles seraient les pistes que tu verrais pour justement améliorer la situation de l'emploi? Je sais qu'il y a sur la question du partage de la richesse entre salaire et profit. Donc, est-ce que c'est du côté de la hausse des salaires qu'il faut voir, ou enfin voilà, quelles sont les pistes que tu vois ou que tu privilégierais pour être plus efficace en matière d'emploi?
Oui, alors sur cette question de partage, en fait, des manières de voir les choses, c'est que ça fait 40 ans qu'on fait cette politique-là, ça fait 40 ans qu'elle ne marche pas, donc on peut se poser la question pourquoi on insiste. Donc, une des manières de voir les choses, c'est de dire bah, on insiste parce que tout le monde n'est pas perdant. Ça ne crée pas d'emploi, mais tout le monde n'est pas perdant, et qu'en fait, justement, ce n'est pas une politique de l'emploi. La réalité, c'est que c'est une politique de partage de la valeur, hein, au détriment des salariés et en faveur des employeurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ben, j'ai envie de dire, il y a deux grandes dimensions, d'une certaine manière. Mais l'idée où on pourrait créer des emplois, déjà, il y a un grand foyer d'emploi qui sont tous les services essentiels dont on a besoin. À la fois les ménages et les entreprises, d'ailleurs, ont besoin de ces services-là et qui ne sont pas pourvus. Donc là, les premiers points, c'est tous les services, on va dire, sociaux, puisqu'on a cet âge-là. On avait évoqué en début le fait de dire, par exemple, quand on regarde le marché du travail français, une des caractéristiques par rapport... une des caractéristiques, c'est de dire, globalement, il y a un taux d'emploi des femmes qui est assez bon, à une exception près, qui sont les femmes qui ont des enfants en bas âge et des salaires peu qualifiés. C'est les deux. Hein. C'est-à-dire que les femmes, finalement, qui ont des salaires très qualifiés, elles ont un taux d'emploi qui reste bon, même quand elles ont des enfants en bas âge. Et les femmes peu qualifiées, quand elles n'ont pas d'enfants en bas âge, elles ont un taux d'emploi qui est relativement bon aussi. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème et que ce problème, il est lié à la garde d'enfants. Spécifiquement. Alors on pourrait dire il n'est pas lié qu'à la garde d'enfants, il est lié au sexisme aussi, parce que sinon ce ne serait pas que les femmes, mais il est lié aussi à la garde d'enfants et donc aux services de garde d'enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les services sont chers quand c'est des services privés, ils sont en partie subventionnés, mais il y a un manque de services. Il y a des services, disons, à travers des crèches qui sont là, dont le prix est totalement dépendant du revenu, mais on manque énormément de places de garde collective, et donc ensuite on a des formes de subventionnement à travers par exemple la garde à domicile, mais qui en fait la coûte très cher, et donc évidemment il n'y a que les ménages riches qui peuvent se le payer. Et donc en fait ce rationnement très très fort sur la garde d'enfants, il se retrouve pénalisé fortement les mères les moins qualifiées. Et donc là, un premier point, c'est de dire si on a des services qui manquent, si on les finance, ça va créer des emplois. Par définition, il va falloir les faire. Donc ça, c'est un premier point, et on pourrait avoir la même chose sur la question de la perte d'autonomie, où on a aussi pas mal d'éléments qui nous disent qu'il y a des conditions indignes dans lesquelles finissent leur vie nos aînés, et là aussi, on manque de services, et avec des grosses inégalités, parce que c'est des services qui sont coûteux, et donc s'ils ne sont pas fournis par la société, il y a une partie de la population qui ne peut pas les avoir. Et à nouveau, un peu de la même manière que ça pénalise aussi la production et donc l'emploi, c'est que de la même manière que c'est les mères des enfants en bas âge qui sont peu qualifiées, qui ont tendance à arrêter de travailler, on a aussi les filles, des personnes en perte d'autonomie qui, des fois, vont mettre leur carrière entre parenthèses. Donc là, on a un double effet, d'une certaine manière, sur l'emploi. C'est-à-dire qu'en ne fournissant pas les services, on ne crée pas les emplois. Et puis, en ne les fournissant pas, on empêche un certain nombre de personnes d'aller travailler. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un autre point, disons, pas tant sur les ménages, mais sur les entreprises elles-mêmes, c'est, on pourrait se poser la question, de quoi ont besoin les entreprises ? Parce que, visiblement, c'est pas de salaires plus bas vraiment dont elles ont besoin. Et donc là, finalement, si on regarde, ben, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'une bonne technologie, d'infrastructures, de main d'œuvre en bonne santé, bien formée, etc. Et donc là, à nouveau, on est plutôt dans la protection sociale liée à la santé. On serait sur des meilleures conditions de travail qui permettent aussi d'avoir des meilleures productivités. On a sur des investissements dans l'innovation, la recherche. Et là, on a en France particulièrement peu de dépenses publiques, notamment, mais aussi privées. Mais en fait, les deux sont liés. On a peu de dépenses publiques de recherche et d'innovation. Et donc, voilà. Donc ça aussi, c'est des secteurs qui aideraient et qui aideraient mieux les entreprises que de faire baisser les salaires. Et puis ensuite, pour toutes celles, et c'est quand même la majorité des entreprises qui vendent en France, du pouvoir d'achat, ça les aiderait. Du pouvoir d'achat, ça les aiderait. Et donc là, de ce côté-là aussi, des meilleurs salaires, potentiellement, ça les aiderait. Et à nouveau, on se retrouve sur un effet. Si une entreprise est toute seule à augmenter ses salaires, là, effectivement, elle ne va pas en bénéficier en termes de demande. Par contre, s'il y a une augmentation globale des salaires en France, on a un certain nombre de secteurs, et tous les secteurs qui vendent en France vont se trouver avantagés. Alors le point, c'est de dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais ça coûte. C'est vrai, ça coûte cher. Oui, mais en même temps, c'est pas comme si, à la place de faire tout ça qui serait réellement utile aux ménages et aux entreprises, on faisait des choses qui coûtaient pas. Parce que justement, on fait des choses qui coûtent énormément. Typiquement, les exonérations de cotisations sociales, mais aussi d'autres choses. Parce que pour...
En fait, tu parlais de 80 milliards de...
Donc 80 milliards sur les exonérations de cotisations sociales. Il y a aussi, comme on paye pas, comme on baisse, on maintient le SMIC à un niveau très bas, qu'est-ce qu'on fait? On paye aussi à la place de l'employeur à travers la prime d'activité. La prime d'activité, le principe, c'est que c'est l'État qui paye le salaire à la place de l'employeur, etc. etc. Donc on a toutes ces choses-là qui sont pas efficaces pour créer des emplois et qui coûtent cher et qui pourraient être utiles pour financer toutes ces autres choses qui seraient utiles à la fois pour l'emploi et pour la société. Et donc, effectivement, une des solutions, c'est d'opérer une bascule, d'une certaine manière, depuis cette stratégie de coût de l'emploi, qui coûte très cher, notamment depuis les exonérations de cotisations sociales, vers un investissement public dans tous ces services-là, à la fois aux ménages et aux entreprises, qui permettraient d'avoir à la fois des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de production.
Mais écoute, merci beaucoup Clément pour toutes ces explications et ces éclairages fort intéressants. Le livre, donc, je rappelle, c'est « Toujours moins, l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français ». Ouvrage très intéressant, on en a eu un certain nombre d'explications. Merci encore.
Merci de m'avoir reçu.